Il va s'agir d'une femme. Il ne faudra pas se tromper sur la douceur de sa voix. Elle est agile, elle peut nous semer sur les chemins de la généalogie.
Supposez que je vous demande, à vous, que je vous demande par quel terme vous désignez, vous appelez le fils de la fille, du frère, de la mère de votre père, voilà. Je suis sûre que ça vous faut plus qu'un petit temps de réflexion. Oui.
Prénom.
Françoise.
Nom.
Héritier.
Date de naissance.
15 novembre 1933.
Profession.
Anthropologue.
Filiation.
Livradois en Auvergne et Saône-et-Loire en Bourgogne.
Filiation spirituelle.
Claude Lévi-Strauss, qu'elle a longtemps considéré comme un demi-dieu et auquel elle a succédé au Collège de France en 1982.
Célibataire. Marié.
Marié à Michel Izard, philosophe, ethnologue, puis à Marc Auger, directeur de la Maison des Sciences de l'Homme.
Œuvre principale.
La première très savante, l'exercice de la parenté, puis une pensée en mouvement, masculin, féminin. Ses plus grands succès, c'est ce qu'elle appelle ses fantaisies. Le sel de la vie, le goût des mots.
Décédé.
Le jour de son 84e anniversaire, en 2017, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où elle était soignée depuis longtemps pour une maladie auto-immune.
France Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Eh bien, on va commencer par le point de départ. La généalogie, toujours. Françoise Héritier vient d'une petite bourgeoisie raisonnable, issue de la paysannerie. Ma pauvre chérie, lui disait sa mère, je ne pourrai jamais comprendre ce que tu écris. Ses parents ont réalisé ce qu'elle était devenue lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, quand Lévi-Strauss s'est approché d'eux pour les féliciter. Avec méthode, elle avait suivi sa piste, et pas seulement en Afrique, soit, en plus de ses livres, 100 mètres linéaires d'archives qu'elle a légués aux Archives nationales en 2014.
Un don, eh bien parce que c'est ma manière de rendre à l'État une partie de ce qu'il m'a donné. Et une partie seulement, car l'État m'en a donné plus que je ne lui en donne, c'est certain. Grâce à ce soutien éclairé, j'ai eu, comme nous autres ethnologues, nous l'avons toujours, j'ai eu cet immense privilège de vivre une vie entière, baignée dans la joie, celle des apprentissages, celle à nul autre pareil de l'expérience de terrain et de la rencontre avec d'autres logiques de pensée que la sienne, celle excitante de la formulation de questions, d'hypothèses et d'essais de réponses, celle aussi de la plénitude que donne parfois le sentiment d'avoir compris quelque chose du fonctionnement de notre monde, enfin celle essentielle qui va avec la transmission par l'enseignement. Ces joies-là, c'est un cadeau qui m'a été fait ma vie durant par l'État et que je ne pourrai jamais rembourser autrement que par l'expression évidente de ma reconnaissance en rendant à César et donc à nos concitoyens ce qui leur appartient. Et c'est là le but ultime de ce don. Merci à vous tous.
Mais si on revenait au commencement était la terre. Françoise Héritier, jeune, passe ses vacances dans une ferme de Saône-et-Loire. Et pendant que son frère, qui est pourtant plus jeune, a la liberté de sortir, de faire du vélo, elle se tient immobile au pied de ses deux grands-mères, qui ne cessent d'échanger des informations, des commérages, sur les alliances dans leur village. Du genre, la Lucette de la Fouchardière a épousé le fils du boulanger qui, tu t'en souviens, lui-même. Françoise Héritier pressent d'expérience l'importance des systèmes de parenté qui, d'une part, tracent une frontière entre les parents et les étrangers et, d'autre part, définissent les alliances qui sont possibles et celles qui ne le sont pas. Plus tard, à Paris, elle en découvre le caractère structurant grâce à l'enseignement de Claude Lévi-Strauss. Dans les rayons du Fonds Héritier aux Archives nationales, Yann Potin.
Le problème, c'est que là, en fait, on est dans des conditionnements qui sont provisoires, hein, puisque le fond est, en fait, c'est plus des cartons de déménagement que des cartons de consultation. Et on gagne de la place au maximum. Voilà. En 1956-57, Françoise Héritier a pas tout à fait encore fini ses études. Elle hésite beaucoup. Elle fréquente beaucoup de philosophes, dont un qui va devenir son mari, Michel Izard. Et puis, elle fréquente beaucoup de cours différents. C'est aussi l'atmosphère de la Sorbonne et de l'école pratique de hautes études de l'époque. On a beaucoup d'une offre finalement assez importante. On a conservé d'ailleurs, elle a conservé dans ses papiers une grande partie de ses notes de cours. Et d'ailleurs, plus globalement, le fait qu'elle la note et qu'elle note est quelque chose de très frappant. Et par exemple ici, voilà ces notes très émouvantes et en même temps très structurées au séminaire de Claude Lévi-Strauss à l'école pratique des hautes études, 5e section, pour l'année 1956-57, sous le titre « Les organisations dualistes existent-elles ?» Alors ce qui est très impressionnant, c'est le caractère extrêmement rédigé de la part de Françoise Héritier. Hein, le cours fait quand même une 60-70 pages manuscrites, beaucoup de schémas déjà. On sait par ailleurs qu'elle va plus tard devenir une grande virtuose de des schémas de parenté. Hein. Ça va être d'ailleurs une des choses qui va beaucoup impressionner Lévi-Strauss plus tard, c'est qu'elle va tout de suite immédiatement traduire les structures de parenté en schéma. Donc là, un séminaire donc sur le dualisme, c'est-à-dire effectivement déjà des questions fondamentales sur l'organisation sociale.
Indice, Isaac de Sarthe, qui avec Yann Potin a commencé à explorer le fonds Héritier, note que dans ses annotations, l'importance de l'annotation en marge, dans le séminaire de Lévi-Strauss de 56, elle a souligné en rouge l'hypothèse qui y est émise que la différence masculin-féminin serait la première de toute prémonitoire. En 1957, le maître, auquel elle est maintenant attachée définitivement, l'envoie sur ce qui sera son terrain de 7 ans, le pays des Samo, en Haute-Volta aujourd'hui, le Burkina Faso. Yann Potin toujours.
On va aller de l'autre côté. Donc là, on a sorti ce qui fait partie des choses auxquelles Françoise Héritier tenait le plus dans son don d'archives, à savoir ses carnets de terrain. Bon, pour plein de raisons, tout d'abord parce que, en effet, comme elle l'a toujours dit, faire de l'ethnographie, faire de l'ethnologie et la pensée en anthropologie, c'est prendre des notes, noter, et il en adviendra toujours quelque chose. Et par ailleurs, le carnet de terrain, c'est un peu l'objet fétiche de l'anthropologue qui est à la fois un journal, et justement, quand on s'approche, on voit qu'elle a intitulé son premier carnet journal. Alors, c'est un carnet qui, en fait, est, là encore, très bien écrit, et là, c'est véritablement un journal rédigé. Hein. J'écris, il est 21h, nous sommes installés, Michel et moi, donc Michel Izard, à l'extérieur de la case, etc. Entouré d'un cercle épais d'enfants, femmes et jeunes gens à la fois, rieurs et étonnés. Michel prenant des notes et Catherine faisant Catherine, c'est sa fille. Donc Catherine faisant le pitre. Voilà, tout simplement, faisant le pitre, puisque là, elle doit avoir 2 ou 3 ans, hein, pas plus que ça.
Oui, continuez. Je vous écoute, monsieur Lebrun. Je note.
J'observe que, quand elle considère les enfants, justement, Françoise Héritier observe que, lorsqu'un petit garçon pleure, on le calme de suite, parce que la colère pourrait le submerger. La petite fille, elle peut attendre. Plus tard, le jeune homme, lorsqu'il sera pris d'un désir sexuel, paraît-il irrépressible, eh ben, il devra être satisfait illico, de même. Les années passent, Françoise Héritier devient chercheuse permanente au laboratoire d'anthropologie sociale de Lévi-Strauss. Elle obtient une direction d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Et lorsque la succession du maître est ouverte, c'est elle qu'il pousse sur la ligne de départ. Certes pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle a su inventer des concepts qu'elle va utiliser une fois élue, dès sa leçon inaugurale 1983.
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, Madame Héritier va prononcer sa leçon inaugurale.
J'aimerais que vous me commentiez la photo de classe du Collège de France, photo où vous apparaissez comme la seule femme. Sur cette photo, vous apparaissez au premier plan, vous êtes la seule en robe, parce que les autres sont tous en costard-cravate. Comment vous avez été accueillie dans cette institution essentiellement masculine, Françoise Héritier ?
Le fait d'être la seule femme dans un monde exclusivement masculin induisait chez moi quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si je me ferai comprendre, mais imaginez que vous êtes dans un monde où il n'y a qu'un seul sexe. Vous ne voyez que des hommes. Eux tous voient que vous êtes une femme. Ils finissent par l'oublier. C'est une collègue, enfin bon, qui parle le même langage qu'eux. Mais moi, quand je ne voyais que des hommes autour de moi, c'était tout juste si je ne me voyais pas comme étant un homme parmi des hommes.
Monsieur l'administrateur, mes chers collègues.
Et je dois dire que j'ai vécu cette entrée dans une espèce de terreur physique.
L'un de vous que je rencontrais alors me fit ainsi part de sa satisfaction. Avec vous, dit-il, l'Afrique a enfin droit de citer au collège et elle y entre à part entière.
En fait, je fais le constat qu'avec l'intitulé de cette chaire, l'Afrique entre enfin à part entière au Collège de France comme avec un enseignement qui lui sera consacré.
Vous me permettrez, mesdames, messieurs, d'ouvrir ici une parenthèse et de m'attarder sur un détail passé...
J'ai un petit mouchoir que je ne cesse de balader d'une main à l'autre qui me sert à calmer justement cette émotivité parce que ce n'est pas une conférence tout à fait anodine, voilà.
Alors, là, c'est tout à fait intéressant puisqu'on a... Alors ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans le fond... dans le premier versement de son vivant. En revanche, après son décès, dans son bureau, j'ai constaté qu'elle avait conservé dans des boîtes, d'ailleurs, de conservation définitive, hein, des cochards, les mêmes que nous utilisons ici, donc un peu comme un trésor, ses notes de cours au Collège de France. Et on voit alors là parfaitement Françoise Héritier, l'archiviste, puisque il y a autant de chemises que d'étapes, en quelque sorte, du travail et de la gestation de sa pensée en cours au Collège de France.
Si on veut lui définir ce qu'est la vocation d'un cours au Collège de France, il ne faut pas se répéter et il faut mettre sur le marché des concepts nouveaux.
Le Collège de France pour l'anthropologie est une des rares institutions qui existe. Donc c'est pas comme pour les autres disciplines, c'est éminemment central. D'où l'importance de la chaire de Lévi-Strauss et l'importance pour Françoise Héritier de lui succéder. Et effectivement, on peut dire que le problème d'un cours au Collège de France, c'est que c'est à la fois il faut qu'il y ait du neuf, je pense. Et en même temps, c'est un public très large, puisque c'est un auditoire libre, donc on ne peut pas être trop technique.
Attention, cependant, à ne pas trop majorer l'influence qu'elle a en ce début des années 80, qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Son cours, qui peut paraître technique, n'attire qu'un noyau de fidèles, ce n'est pas Barthes ou Foucault. Encore une observation d'Isaac de Sarthe, il dit, en 83, le structuralisme tel que l'avait incarné Lévi-Strauss est en crise, comme d'ailleurs le marxisme à la même époque. Mais il se trouve que Françoise Héritier est placée par les circonstances au sommet de la chaîne alimentaire universitaire et que, soutenant très attentivement, très fidèlement ceux qui viennent lui demander conseil, elle tisse un réseau d'autant plus solide qu'il est vraiment amical. Ça ne l'empêche pas de sa voix douce d'être tranchante.
Comment comprendre le point de vue du philosophe Luc Ferry, selon lequel le Don Giovanni de Mozart est supérieur au tambourin Nambi Kouara ?
Le relativisme esthétique est-il le même que celui des valeurs ? Premièrement, les Nambi Kouara n'ont pas de tambourin. Deuxièmement, il s'agit là d'un procédé rhétorique démontable. Il s'agit d'associer les Nambi Kouara, emblématiques des expériences du terrain de Claude Lévi-Strauss, aux formes instrumentales les plus simples, grelots, sonailles, hochets, contre toute vérité pour dévaluer le point de vue ethnologique qui défend des brimborions. Mais si on s'en tient à l'analyse musicologique, par exemple, il y a un chromatisme extrêmement savant et compliqué dans des chœurs pygmées sans aucun instrument. Et par ailleurs, nous avons des tambours, tambourins, triangles et clochettes dans nos orchestres symphoniques. Nos oreilles sont plus habituées à Mozart qu'à Oum Kalsoum, je n'en disconviens pas. Notre musique classique a ses genres et ses lois, les autres aussi, auxquels nous ne sommes pas accoutumés. Mais il aurait fallu comparer Mozart avec la musique de cour chinoise, par exemple. Comparer une écriture musicale correspondant à des genres, écoles et lois d'harmonie nécessitant un orchestre, à l'usage populaire d'un simple instrument de percussion, est illégitime et peut-être malhonnête. Oserions-nous comparer Mozart au pipeau des pâtres, antique ou non, en Europe ?
La chaire de François Héritier au Collège de France depuis 1983 s'intitule « Études comparées des sociétés africaines ». Mais, à dire le vrai, quand elle s'est saisie d'un concept qui pourrait mettre de l'ordre dans le chaos apparent des conduites humaines, elle explore tous les terrains qui permettent de l'expérimenter dans l'espace comme dans le temps.
Dans le scénario que j'ai monté, c'est un scénario qui essaye de penser comment les premiers hommes, je m'arrête disons à Néandertal et à Homo sapiens sapiens, et ils observent dans la nature qui les entoure et dans leur propre genre, le genre humain, une constante qui va au-delà de toutes les différences de formes d'espèces et des différences individuelles, qui est qu'il y a partout du masculin et du féminin. Bon, il y a l'idée qu'il faut des rapports sexuels pour faire un enfant. Mais ça, c'est des butoirs pour la pensée. Et puis il y en a un absolument énorme, celui-là. Qui ne surprendra personne, c'est qu'ils s'aperçoivent d'un phénomène que j'appelle exorbitant. Exorbitant pour l'esprit, parce qu'il n'y a pas d'explication possible que les mâles ne peuvent pas ni reproduire leurs semblables, ni faire du différent.
C'est-à-dire ni faire de fils, ni faire de filles.
Ils ne peuvent pas faire de leur fils, ils ne peuvent pas faire de filles, et que c'est les femmes qui font les deux. Et donc, en réfléchissant à cette question, ils sont arrivés, l'ensemble des humains, c'est pas seulement les hommes qui ont décrété cela pour asservir les femmes, c'est une réflexion commune. Ils sont arrivés à la conclusion que si les femmes faisaient les enfants des deux sexes, elles ne pouvaient pas faire les garçons de leur propre chef. Alors, il y a deux grands types de théories que l'on va trouver dans les sociétés. L'une qui dit qu'en fait, les enfants sont placés dans le corps des femmes sous forme de graines par le Créateur ou par les ancêtres ou par des génies. Et que ces graines descendent les unes à la suite des autres, mais qu'il faut, pour qu'ils viennent à maturité, il faut que le corps soit ouvert par un homme et que la graine soit arrosée par un homme. Alors vous trouvez cela encore maintenant chez les Zoulous, par exemple. Et l'autre façon de voir les choses, qui a été ennoblie par la pensée aristotélicienne, mais qu'on trouve dans des sociétés qui, évidemment, n'ont jamais lu ni connu la pensée aristotélicienne, c'est l'idée qu'en fait, la graine, elle est dans l'homme, et que c'est dans le sperme masculin, et que c'est lui qui met les graines dans le corps des femmes. Il met les graines dans le corps des femmes, et ensuite, ces graines se développent pour faire des enfants en utilisant la matière féminine, donc le sang qui ne part plus. Et le corps féminin est alors vu soit comme une besace, une marmite, un pot dans lequel va cuire le bébé, soit comme une matière, ça c'est la vision aristotélicienne, une matière qui aurait tendance à proliférer de façon anarchique si elle n'était pas dominée par le pneuma, le souffle qui est contenu dans le sperme masculin. Et donc, d'une certaine façon, les hommes deviennent le moteur premier de la procréation.
Et les hommes, incapables d'enfanter mais acharnés à contrôler la reproduction par les femmes, tirent parti de ces systèmes de représentation binaire. Ils y incarnent immanquablement des valeurs supérieures. L'actif qui l'emporte sur le passif, le chaud et le sec qui l'emporte sur le froid et l'humide, etc. Véronique Naumgrapp, qui a suivi fidèlement pendant près de 20 ans l'enseignement de Françoise Héritier.
Le mot valence. Et valence différentielle des sexes, donc à partir d'études extrêmement rigoureuses et techniques sur les systèmes de parenté, elle a démontré que quels que soient les cas de figure, les 6 systèmes de parenté connus au monde, les plusieurs possibilités de définir l'homme, la femme, etc. Elle a démontré que le statut entre frère et sœur, quel que soit leur âge, la femme, la sœur, était toujours rabattue dans la position du cadet. Il est toujours l'aîné, quel que soit son âge, d'elle. C'est-à-dire que ce qui s'est passé le plus souvent dans des constructions culturelles, c'est que la position d'antériorité des parents, cette position d'antériorité qui est une position de supériorité, les parents ont le pouvoir sur les enfants, ça s'est déplacé sur masculin-féminin, et toutes les femmes sont devenues les cadettes des hommes, entre frères et sœurs, et après, dans les systèmes d'ailleurs de juridiques qu'elle a étudiés, sur les mariages et tout ça, la femme était la cadette.
Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Nous continuons à suivre l'enseignement de Françoise Héritier au Collège de France, en compagnie de Véronique Naumgrapp, qui suit fidèlement les cours et qui découvre l'importance grandissante d'un thème, les humeurs du corps.
Dans cette espèce de grande dissymétrie structurelle entre masculin et féminin qui donne au masculin quelque chose de plus fort que le féminin en termes de valeur sur plusieurs plans, eh bien, un nombre important de textes qu'elle cite et qu'elle a travaillé montre que la perception de l'enfantement, c'est entre les deux corps différents, c'est que la femme serait définie comme ne faisant le réceptacle, le vase sacré ou la marmite, comme on disait en Afrique, disait-elle, et de l'autre côté, l'homme qui transforme la nourriture en sang, il va aussi le transformer en sperme, ce qui est encore plus chaud, qui a encore plus de valeur, et puisque c'est ce sperme qui va planter dans le vase sacré féminin les enfants des deux sexes. Et s'il y a un problème, c'est que ça viendra d'elle. Donc le sang masculin, l'homme, il est plus chaud, il est plus mobile, il est plus créateur, il est plus etc. Et le lait en face est beaucoup plus faible. C'est le sang qui est le véhicule de la transmission des identités collectives, le sang masculin de père en fils. Le lait a une importance énorme quand même, mais rien à voir en termes de filiation. Donc c'est secondaire. Et donc cette dissymétrie qui frappe le masculin féminin frappe aussi les humeurs du corps féminine et masculine perçues dans ce système culturel.
Au moment précis où Françoise Héritier réfléchit sur ses humeurs du corps, voici que celles-ci deviennent une menace mortelle puisque la pandémie du sida qui se déclenche dans le monde passe par elle. En France, un conseil national du sida est créé en 1989. Le président de la République de l'époque, François Mitterrand, a l'intelligence de ne pas nommer à sa tête un médecin, comme tout un chacun le lui recommande et comme on le ferait aujourd'hui. Non, une anthropologue, l'anthropologue dont les recherches deviennent immédiatement hautement nécessaires. Lévi-Strauss, qui préfère toujours le retrait par rapport à l'époque, aurait préféré que Françoise Héritier refuse la proposition du président. À l'entendre, elle courrait le risque de la dispersion. Mais en acceptant, elle se tient au contraire au cœur de son métier de chercheuse.
Elle a décrit depuis longtemps et elle voit fonctionner sur ces terrains et sur divers terrains ce que produit une maladie terrifiante, nouvelle et gravissime socialement. ça produit, un, pour des raisons d'homologie entre corps humain et cosmos, comme un signe de négativité sur un ensemble de la planète, c'est-à-dire que ça va être interprété tout de suite comme décadence inquiétante, et voire il va y avoir des orages, des comètes, des criquets, calamités. Un. Deux, ça va être interprété comme étant, pour l'individu malade, lui, quelle faute a-t-il fait ? Tout indiqué, alerte, signal rouge, on allume le signal du danger. Les chercheurs en sciences sociales, l'anthropologue vous dit, danger majeur de stigmatisation. Comment on fait ? Et ça, ça a été posé comme question au Conseil national du SIDA sous l'impulsion de gens comme François Rézéritier, Michel Perrault et après d'autres, Claudine Vidal, etc., qui ont tenté à chaque fois de dire aux médecins et aux politiques qui disaient il faut dépister systématiquement, on va mettre un panneau dépistage du SIDA, on ouvre la porte, mais personne n'ira. Et surtout les plus vulnérables. Plus les gens sont vulnérables, moins ils se feront dépister, plus ils seront vecteurs de contamination dans leur genre, etc. Donc alors, comment on fait ?
En 1992, ce qu'on nomme l'opinion publique aurait préféré le dépistage obligatoire à chaque instant clé de la vie, les questionnaires intrusifs, le signalement des partenaires, etc. Un avis du Conseil national du SIDA remonte la pente en faisant valoir des arguments d'éthique, de droit, d'efficacité et en avril.
La contagion du sida s'étend sur la planète. L'Organisation mondiale de la santé a en effet recensé officiellement près de 500 000 cas dans 164 pays. En France, après 4 mois de débat, le ministère de la Santé a tranché. Le test de dépistage du virus HIV restera volontaire, mais il sera dorénavant remboursé à 100%. Et surtout, l'incitation à se faire dépister volontairement sera renforcée.
Le dépistage obligatoire du sida ne passera pas. Le gouvernement vient de mettre fin à 4 mois de débat. Si le corps médical, par la voix du Conseil de l'Ordre et de l'Académie de médecine, s'y déclarait plutôt favorable, en revanche, beaucoup d'associations y étaient farouchement opposées. D'autres voix ont pesé très lourd, celle du Comité national d'éthique et du Conseil national du sida.
Si nous faisons des tests de cette sorte, vous perdez vos malades, vous la prévention, vous les laissez seuls avec leur misère affective et physiologique. Nous ne voulons pas ça.
Si on pense la situation dans laquelle on en est, et il nous manque une Françoise pour en parler, pour discuter, le risque qui peut se profiler, si on ne l'anticipe pas, c'est que comme le confinement n'est plus possible et que le virus est toujours dangereux, les personnes vulnérables, donc on va les appeler poétiquement les vieux. Les vieux et les malades, mais les vieux gros, non, mais quand même les vieux majoritairement, vont être instamment, on va leur demander instamment de rester chez eux. C'est ça le mécanisme. Et ça, c'est des sciences sociales. Et c'est pas que, ce sont des mécanismes qu'on peut déjouer. Mais si on les a pas perçus et décrits, on arrive trop tard.
Françoise Héritier, elle-même, est malade. Dès sa deuxième année au Collège de France, elle a dû prendre un congé. Une maladie auto-immune, peut-être contractée en Afrique, et qui la tenaille tout au long de sa présidence du Conseil national du SIDA. À cette maladie, elle doit cependant l'idée de rédiger des livres, tout simple, une longue phrase qui coule d'une même source par association de sensations et d'idées. La maladie a réveillé en elle le sel de la vie. C'est le titre d'une des fantaisies qu'elle publie. Et elle tire aussi de cette maladie le bénéfice d'une rencontre avec un grand médecin, le professeur Jean-Charles Piette, l'homme qui, avec son mari Marc Auger, la connaîtra le mieux.
J'attends Jean-Charles Piette, qui est un professeur de médecine interne, très grand savant, qui a même la réputation d'être le meilleur connaisseur au monde des maladies auto-immunes. Je l'ai rencontré il y a 25 ans, peut-être même un peu plus. C'est un être absolument merveilleux, un homme de cœur, c'est-à-dire il est doué d'empathie avec ses malades. Il les voit comme des personnes et non pas simplement comme des cas pathologiques.
vous manifestez de l'empathie avec vos patients, vous vous intéressez à eux, à leur histoire. Et c'est comme ça que nous avons développé, parce que vous vous êtes intéressé pas seulement à ce qui est arrivé à mon corps, mais ce qui est arrivé dans ma vie. Vous m'avez soutenu dans des moments difficiles et nous sommes devenus amis pour cette raison-là. Et puis pour des raisons qui sont peut-être moins nobles, mais tout aussi avouables, c'est que vous aimez la chanson, que même vous en écrivez, et moi aussi. Alors, de temps en temps, il m'arrive de retrouver des paroles de vieilles chansons et vous acceptez de jouer avec moi. Vous voulez le petit coquelicot ou le déserteur?
Le petit coquelicot.
Quand même, petit coquelicot. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue sous le soleil de l'été au milieu d'un champ de blé. Et sur son corsage blanc, juste à la place du cœur, le soleil en jouant faisait comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. On va quand même pas chanter toute la chanson.
C'est le coquelicot sans préparation, ça.
Il y a aussi une chanson d'Henri Salvador où un garçon cherche à se marier dans une petite île. On est du côté des Antilles. Et toutes les filles sur qui il tombe son choix, son père lui dit « Tu peux pas l'épouser car cette fille est ta sœur, mais ta mère ne le sait pas. » Et alors le fils, ben, il tombe amoureux que de filles qui lui sont interdites. En quelque sorte. Et comme sa mère s'étonne qu'il ne choisisse pas, il finit par lui dire « Pourquoi ?» Et sa mère lui dit « Écoute, épouse qui tu veux, car ton père n'est pas ton père, mais ton père ne le sait pas. »
Donc à un moment, Françoise, qui avait beaucoup de très graves ennuis de santé, était en relation avec son médecin et elle-même, je ne fais que répéter ce qu'elle a beaucoup dit à la veille de vacances, et elle dit « Alors vous partez en vacances ?» Il dit « Non, non, je travaille, etc. » Et elle a été stupéfaite par sa réponse. Elle a dit « Mais vous ne profitez pas du sel de la vie. » Et elle a fait ce livre pour expliquer aux hommes qui travaillent tout le temps, les travailleurs, n'est-ce pas, que tout gris comme ça sur la nuit d'insomnie sur le travail et qui emmerdent toute leur famille parce que jamais ils prennent du temps pour aller voir Guignol avec les enfants, donc voilà. Et elle leur dit qu'elle le sel de la vie, et du coup ce sel est le mot génial parce que c'est exactement ce qu'on ressent comme excitation très précise, très pointue d'un goût un peu salé sucré, etc. Donc elle écrit trois phrases. Et chaque phrase est un petit bijou.
Le sel de la vie. Je continue en suivant la méthode des surréalistes. Association d'idées et laisser venir à soi. Les fous rires, les coups de fil à bâtons rompus, la sieste à l'ombre, lire en paix son journal, feuilleter des albums de photos, tirer négligemment sur une cigarette, tenir son journal, danser, ah, danser. Sortir et faire la fête, se vautrer sur un canapé, flâner dans les rues en faisant du lèche-vitrine, essayer des chaussures, prêter vraiment l'oreille aux autres. J'oublie tellement de choses encore. Et vous, qu'est-ce qui vous manquerait le plus si tout cela devait disparaître à jamais de votre vie ?
En trois lignes, avec des mots extrêmement bien choisis, elle fait fleurir. C'est comme un feu d'artifice qui serait quand même assez doux, sans bruit, mais qui pétillerait d'une façon inouïe. Elle fait fleurir quelque chose de très précis, de très vivant, souvent de très drôle ou de tragique. Et il y a le temps qui passe, etc.
Perdre le fil de ses idées en direct à la radio. Boire de l'authentique vin jaune du Jura ou du vin blanc léger de Savenières, se sentir ridicule sous le calot de Dr Honoris Causa. Boire avec plaisir le potage du soir des hôpitaux de Paris.
Comment vous voyez, puisque vous êtes surtout philosophe, la qualité des fantaisies, des textes qu'elle appelle des fantaisies, ces associations libres qui ressemble plus à Georges Perec qu'à Claude Lévi-Strauss.
Oui, alors
Isaac de Sarthe.
J'ai jamais réfléchi à ça, mais si je devais vous répondre, il y a une idée qui me vient, c'est qu'elle, elle part quelque part du même postulat que celui formulé par Freud dans Imago en 1934, qui est que l'homme des origines a dû interpréter son monde à partir de ses propres sensations corporelles. Moi, je dirais comme ça, mais j'ai sans doute tort, qu'il y a une expérimentation qui va de ce côté-là, dans ces livres. C'est exprimer mes sensations corporelles. Les décortiquer. Je pense que ça entre dans son système, puisque elle pense que c'est quelque chose de fondamental dans la formation des concepts et la formation de la pensée humaine.
Voir un homme jeune et trapu, crâne épais et rasé, mollet poilu, Bermuda et Rangers, pousser d'une main la voiture d'un bébé délicatement protégé du soleil par une mousseline, tenant dans l'autre un cornet double de glace à la fraise et y observer quelques changements bénéfiques survenus dans les mœurs.
Intelligence, service.
Vous êtes bien jolie, mademoiselle.
Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Ah oui, c'est ça, c'est original. T'as des problèmes? C'est le printemps? Ça te démange un petit peu? T'as l'habit en fleurs? Bah, va voir les putes. T'as pas de fric, c'est ça?
Fâche pas.
Tu veux baiser? Tu veux baiser? Bah, vas-y, allez, viens, on y va. Allez, tu peux pas? Minable, taré. Tu vois pas que tu nous emmerdes, tu nous lâches, oui? Espèce de face de cul, va, face de con.
Mais qu'est-ce que c'est que cet établissement?
Monsieur Lebrun, Madame Héritier a-t-elle eu un lien avec les féministes ?
Le féminisme n'est pas antécédent chez Françoise Héritier, au sens où il n'a pas déterminé l'origine de sa recherche. Au départ, elle n'est conduite ni par une idéologie, ni par une attitude militante, comme celle qu'a Miu Miu dans le film de Duke of Son, dont on vient d'entendre un extrait. Comme pour le sida, c'est l'offre intellectuelle qui est la sienne, qui a rencontré une demande sociale. Pendant qu'elle travaillait sur le masculin et le féminin, elle travaillait comme une taupe, disait-elle. Elle fouillait dans son coin, elle ne sortait la tête que par instant. Et le féminisme avançait, vague par vague, elle l'a rencontré. Il faut dire aussi, elle finit par l'expliquer, que dans sa vie de femme, elle a connu nombre de petites humiliations. Mais elle insiste aussi sur la révolution qu'il a traversée. La loi Neuwirth sur la contraception en 1967. En règle générale, Françoise Héritier ne croit pas en l'effet suffisant des lois, mais celle-ci fait exception. Elle a comme échappé aux parlementaires, hommes qui l'avaient voté. Les hommes ont perdu le contrôle de la fécondité, le sujet cardinal pour Françoise Héritier. En même temps, ajoute-t-elle, rien n'est jamais acquis. Le danger rôde toujours derrière la porte. La contraception est loin d'être reconnue par le monde entier, et même dans les pays apparemment avancés les plus sophistiqués. La marche arrière est toujours possible. Véronique Naumgrapp n'a pas eu besoin de la sensibiliser aux viols de guerre tels qu'ils se sont multipliés dans l'ex-Yougoslavie. C'était dans la tête des mâles le retour du thème archaïque de l'enlèvement des Sabines. Et chez nous, ajoute-t-elle, le viol collectif est toujours possible dans tous les milieux. Et ce que l'on nomme l'opinion publique est toujours tenté de justifier les violeurs.
On s'est rendu compte qu'il y avait régnant dans la société ce que Françoise Héritier et d'autres aux États-Unis ailleurs appellent une culture du viol, c'est-à-dire une vision dissymétrique de la gravité et de la gravité éthique, juridique et en termes de criminalité des atteintes sexuelles contre les femmes comparées aux crimes de sang normaux d'hommes entre eux. Et du coup, le fait qu'on les minore, que c'est rien, c'est presque de la rigolade, elle l'a démontré. Elle a cité cette chanson, chantée dans toutes les écoles, « La rirette, la rirette », il la rencontre, elle a une jupette, le premier qui la voit, il tire la jipette, il tire la couette, je ne me souviens plus des paroles, « La rirette », etc. Et ça se termine, les quatre. La viole et la rirette, la leçon, c'est qu'il ne faut pas partir seul et croiser des garçons. Et combien de les chants, les injures, en rigolant. Alors, il ne faut pas être puritain et dire on ne va plus rigoler, mais au moins, on sait ce qu'on fait. Si on traite quelqu'un, l'injure française, c'est donc, ça, donc j'ouvre les guillemets, pardon, donc c'est enculé partout. Et donc, c'est bien un signe. C'est-à-dire, c'est bien le privilège de la l'activité sur la passivité. C'est pas une histoire de genre, c'est aussi c'est la haine de l'homosexualité, etc., qui va très bien avec la haine du féminin, appelons-le libéré. Toutes ces choses-là qui font partie de la culture du viol, qui nous font rire, qui se sympa, Berrurier, que sais-je, le Rabelais, qu'est-ce qu'on rigole, les chansons à boire, à glou, les hommes entre eux, qu'est-ce que c'est chouette. Et comment ça véhicule l'invisibilité des crimes faits aux filles et aux femmes.
La bande délègue son beau gosse pour séduire la future victime, lui faire croire à un sentiment amoureux et obtenir d'elle une baisse de défense. Quand la jeune fille accepte de le suivre dans un lieu écarté, cave, parking, cage d'escalier ou même appartement, elle est mise en présence de la bande qui l'attend sur rendez-vous en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle l'argument du flirt, du comportement de légèreté ou du consentement de la victime est généralement utilisé par les agresseurs. Si elle est d'accord pour l'un d'eux, elle est censée être d'accord pour tous. Ainsi, le cas jugé en avril 2001 du viol d'une fillette de 14 ans dans les caves d'une cité du 19e arrondissement à Paris par 10 jeunes gens. L'agression se reproduisit deux fois. La première fois, elle eut lieu à l'initiative de son petit ami de l'époque, écrit Le Monde, qui avait décidé de partager sa copine. L'expression est fautive, elle n'était pas sa petite amie. Il s'agit en fait du traquenard perpétré consciemment par le beau gosse, émissaire et rabatteur. Préméditation et chasse concertée, donc, qui s'adressent à des jeunes filles appartenant au même milieu social et scolaire que leurs agresseurs, mais fragiles et isolées, à l'écart des bandes. Souvent très jeunes, comme les garçons eux-mêmes, entre 11 et 14 ans, pour une affaire jugée à Besançon. Une pression forte s'exerce sur les victimes et les oblige au silence et à l'acceptation. Elles visent leur famille, menacée de mesures de rétorsion si la victime se décidait à parler. Quand plainte est déposée, la famille tout entière, parents, frères et sœurs, sont traqués au point qu'ils doivent souvent déménager. Car du point de vue de la collectivité, famille et victimes sont coupables de s'être mises en travers de l'exercice naturel d'un droit en faisant appel aux institutions. L'entourage considère alors que sont punis à tort des jeunes gens tenus désormais non plus pour des agresseurs, mais pour des victimes, puisqu'ils ont été provoqués dans une affaire de jeunes, où la fille est par définition allumeuse et consentante.
Ainsi était la parole de Françoise Héritier, tranquille, précise. Le féminisme est multiple, alors certaines de ses chefs de file lui ont reproché de trop souligner ce que les structures fondamentales ont de stable. Elle expliquait qu'il ne sert à rien d'avancer à marche forcée. Il faut d'abord rendre pensable les changements, ensuite ils deviennent possibles. De plus, ce qui est pensable n'est pas toujours souhaitable. Favorable à la PMA, Françoise Héritier ne souhaitait pas la GPA. L'acte sexuel restait pour elle au fondement de la reproduction et elle se méfiait de tous les engendrements biologiques qui aboutiraient à faire produire du même par le même. Elle ne se faisait pas d'illusions sur les lois, elle se méfiait encore davantage des utopies. L'important pour elle n'était pas que se dissolve la différence homme-femme, mais la hiérarchie homme-femme. Et cela passait par des réformes pragmatiques telles les textes sur le congé paternité et surtout des expériences quotidienne qui associe la vigilance des femmes et les efforts des hommes. C'est ça la vraie révolution, ajoutait-elle.
Parmi toutes les rencontres de profs que j'ai adorées depuis mon prof de philo, j'ai adoré Vernon, Franchement, c'est une des plus précieuses. En même temps, aucun cinéma, Françoise Héritier, aucune séduction de virtuose avec les étudiants, là, comme d'autres grands papes que je ne citerai pas. Mais non, une absence de... Une tranquille modestie, une noble fierté, on l'a formidable.
Elle a demandé, quand elle a tourné un documentaire, on fait un documentaire radio, on n'a pas d'image, nous. Quand elle a tourné un documentaire télé qui s'appelait Empreinte, elle a demandé qu'on montre comme empreinte qu'elle avait laissé la paume de sa main ouverte.
Elle a dit, ouais, je préfère présenter ma main comme ça. En la présentant comme ça, je suis peut-être plus vulnérable, mais en même temps, J'ai la sensation de présenter une offrande. J'offre quelque chose à quelqu'un. Voilà.
C'est magnifique. Moi, ça me fait penser à deux choses. C'est que d'une part, comme vous le savez, les premières traces sur les parois de Sapiens, ce sont des mains. Donc le premier homme a mis la paume de sa main, il l'a trempée dans la suie du feu et l'a mis sur le mur. Et d'un autre côté, retourner la main, c'est vraiment un geste... C'est quand même un don, et un don à autrui, au ciel, à ce qui est en face. C'est la main offerte, c'est le contraire du point tendu, qui est d'ailleurs une image de l'érection, le point tendu. Ben oui, le doigt d'honneur, érection, le point tendu, érection, et la paume de la main offerte. Les féministes devraient le reprendre, on devrait le lancer, c'est-à-dire on tourne la main, on montre la paume, on est désarmé, et on offre, bon j'ai rien à te donner, mais j'aimerais bien te le donner. J'ai rien dans ma main, mais je voudrais te le donner quand même.
Merci à Thierry Van Damisch, le réalisateur d'Empreintes, auquel nous avons beaucoup emprunté. Merci à Caroline Brouet, à Voix Nue, avec Françoise Héritier, il y a peu d'années. Merci à Véronique Naoum-Grapp et à Yann Potin et à Isaac de Sarthe, nos interlocuteurs. Merci à Chloé Salmon, aux Archives Nationales. Un grand salut à notre lectrice, Catherine Bussière. Au preneur de son, Yann Fressy, Yves Lehors, Georges Thau. En studio, Nicolas Slimani. C'était un documentaire préparé par les agents Frédéric Martin et Franck Olivard, d'Intelligence Service. La réalisation, Audrey Ripouille.